en sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
James Noël se présente comme un rentier du verbe, un poète qui en vit, poète haïtien en mouvement, d'île en île, intranquille et toujours en douce rébellion. À 38 ans, il sillonne les tremblements du monde et de poème en chronique, de chronique en revue, il donne l'alerte au menu de son goudou-goudou intérieur, une anthologie de poésie haïtienne contemporaine, Intranquillité, une revue littéraire qu'il dirige, et un pamphlet poétique, La migration des murs, servi récemment par une lecture à deux voix. Celle de James Noël et Arthur H. C'était à la Maison de la Poésie, à Paris.
Que les ponts demeurent et s'élèvent parmi les embûches et embouchures, l'eau continuera de couler sous les ponts. L'eau continuera de couler sans entrave à l'horizon. Les fleuves feront chanter les ponts sans pouvoir les liquider. Dans le couple ciment, eau, eau, ciment, la souplesse d'une bonne nouvelle. Les ponts. Les ponts. Les ponts.
Bonjour James Noël.
Bonjour Yasmine.
Et merci pour ce poème qui préfère les ponts aux murs et pour tous ces poèmes qui dénoncent la présence des murs dans le monde. Une première question, quel lien entre les murs du monde et le séisme qui a frappé Haïti en 2010 ?
Mais ça participe sûrement de mes séismes intérieurs, qui sont d'ailleurs antérieurs au tremblement de terre de 2010. J'ai une petite fatalité dans ma quête poétique, c'est que avant le tremblement de terre qui a frappé Haïti, j'explorais la question poétiquement. J'écrivais à partir de mon deuxième livre, Le sang visible du vétrier. Il y a une récurrence du mot séisme, du tremblement de terre. Et mon livre suivant, c'était pareil, des points chauffés à blanc, qui étaient écrits 4 ans après le drame, parle justement de toutes les îles qui se rencontrent à travers des plaques tectoniques, sont plus vastes que la terre entière. Et puis, le tremblement de terre est venu aussi contrarier tout ça. Donc, je voulais pas en faire une fortune et faire de cette douleur mon miel. Donc, du coup, j'ai mis un peu de côté tout ça, mais c'est comme ça en même temps que j'ai, en quelque sorte, sombré dans la prose. Et j'ai écrit ce livre à la Villa Médicis, à Rome. Donc, écrire sur les murs à Rome, en plus inspiré par les murs de Rome, pour moi, c'était une façon de travailler loin du bruit et de la fureur haïtienne, loin. Et en même temps, on n'échappe pas à soi-même. Pour beaucoup de gens, c'est parce que j'ai vécu la chute des murs en Haïti, et 300 000 morts, et puis ce livre, c'est peut-être révélé tout seul, mais c'est vraiment dans un contexte complètement différent, dans une parenthèse enchantée, en 2012, à la Villa Médicis.
Faire le mur.
Question difficile, mais on va tenter quand même. Est-ce qu'il y aurait une démarche poétique qui consisterait à faire le mur, James Noël?
Oui, au fait, dès qu'on parle de démarche poétique, on est dans une espèce de dédale sans issue, parce que le champ de tout est possible. Donc du coup, faire le mur, pourquoi pas, escalader les murs, pourquoi pas, et sauter les murs, et pourquoi pas, se faire sauter à l'intérieur des murs, pourquoi pas, donc tout est possible.
Pourtant, on a l'impression d'être au pied du mur en ce moment.
Oui, pour la grande majorité, et puis il y a une petite minorité, évidemment, qui sont les bourreaux, et sont-ils eux-mêmes au pied du mur ?
Quand vous dites mur, on peut penser mur de Berlin, on peut penser muraille de Chine, on peut penser mur de Rohingya en Indonésie, on peut penser barrière de séparation en Israël, zone démilitarisée en Corée, la liste est infinie.
Elle est longue, obscurantisme.
Mais vous nous invitez à penser à d'autres murs, des murs quoi, philosophiques, éthiques?
Oui, toute forme de mur. Moi je peux citer les choses maintenant actuelles comme la prison de Guantanamo, ce qu'on vit en Haïti au quotidien. Par exemple, les Nations Unies qui viennent en Haïti, bien, tout de suite, ils décident que certains quartiers, certaines rues sont des zones de non-droit. C'est-à-dire, quand tu connais ces quartiers-là, bien, tu vois comment, sans ériger un mur visible, bien, comment on peut emprisonner des populations entières. Les murs de la chapelle Sixtine sont des murs comme les autres. Il n'y a pas de mur plus sexy, plus métaphorique qu'un autre. Tout est dans le revêtement et dans les pans de la réalité des murs. Les murs de la chapelle Sixtine sont des murs qui ont une foi solide en leur propre existence. S'il y a une dictature dans notre temps, n'en déplaise au pape, c'est bien l'universel dictat des murs.
Extrait en sol majeur de la migration des murs. Merci James Noël. Alors, les murs de la chapelle Sixtine, évidemment, ça nous invite à penser à d'autres murs, au mur de la mosquée El-Azhar en Égypte, la plus grande mosquée. Je suppose que vous n'allez quand même pas jusqu'au mur des Lamentations. C'est une question.
Au fait, il y a plein de murs qui m'échappent. Hein. Je ne suis pas le
garant,
grand connaisseur.
Le gardien des murs.
Mais en même temps, la chapelle Sixtine est au moins évoquée ou ciblée dans ce livre est important parce que j'étais scandalisé par les murs de chapelle qui sont magnifiques, qui sont très très beaux. Mais j'ai jamais vu autant d'entassements, de richesses. C'est quand on parle de la religion et puis on voit tout ça, je trouve ça scandaleux. Mais la religion en soi est une forme de mur. Par exemple, les églises qui poussent comme des champignons, avant même l'arrivée du choléra, apportées par les Nations Unies, une frange des soldats népalais en fait, de l'ONU.
Parler d'Haïti. Hein.
Où on parle d'Haïti. Et puis, il y a par exemple des missionnaires qui viennent mais en grand nombre et qui érigent des murs, c'est-à-dire choisissent des gens qui deviennent des gardiens du troupeau, des pasteurs. Et puis, il y a beaucoup de religions qui ne disent pas leur nom. Moi, par exemple, j'ai une fascination pour les athées. Pour moi, il y a une religion des athées. Les rares athées que je connais, c'est, bon, il y a quelques exceptions, et leur sujet principal, c'est Dieu. C'est pour moi une forme de religion. Nous vivons dans un monde très compartimenté, le monde des blancs, des noirs, des homosexuels, des végétariens. Et pour moi, ce n'est pas des religions, mais en même temps, ça fait tellement de compartiments que ça finit par faire des murs et des murs et des murs.
Le mur du communautarisme.
En cache un autre.
Vous inquiète aussi. Viendra un jour un peuple de maçons de dernière heure qui se retournera d'un seul bond en reptilien boomerang contre les murs. Je vous cite hein, dans les murs de la migration. Vous croyez en un possible peuple de maçons ?
Oui, au fait, je crois dans tout ça, à l'arrivée d'un, pas de prophète, mais comment, des mains de bâtisseurs. Peut-être que c'est la main des jeunes qui vont peut-être soigner notre planète malade. Moi, je pense qu'un poète, c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un ou bien une femme. Et arriver avec ce peuple de maçons de dernière heure dans un livre qui invite à démolir les murs, eh bien, c'est pour moi tout à fait important parce que ce n'est pas un appel à la destruction, à la pulvérisation, c'est vraiment un appel d'air de préférence, un appel à l'escalade et en même temps pour construire différemment.
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous?
James Noël.
Je viens de là. C'est une façon de donner le là. Et de proposer ma musique intérieure et en même temps de parler de mon lieu qui est ma ville natale, Inche, et une île entourée de terre, et une ville enclavée, des gens qui vivent là, qui n'ont pas encore vu la mer. Et Inche justement m'a poussé à me poser la question sur l'insularité. Est-ce qu'on peut envisager une insularité sans la mer? Et donc je viens de Inche, d'Haïti.
Est-ce qu'un poète tel que vous, ça vient d'un drame?
Quelle idée! Ça dépend du jour. C'est un jour, ben oui, je viens d'un drame. Et d'autres, pas du tout, je viens d'une fête.
Vous êtes un poète intranquille. Vous avez invité le mot « il » dans ce mot d'intranquille. Donc qu'est-ce que ça dit de l'intranquillité ?
Ça nous place d'emblée dans une forme même de négation de l'insularité. C'est-à-dire on nous attend là et c'est pas ce qu'on veut proposer. Donc intranquillité, c'est un mot qui tremble. Un mot pour proposer le monde d'une revue qui vient d'Haïti. Et non pas pour parler de nos misères, mais surtout pour proposer l'autre pays. C'est-à-dire le pays de Saint-Aude, le pays de Georges Castra, de Franck Etienne, de Yannick Lahens, de Marie-Vieux Chauvette, de Préfète Dufault, Margot Benjamin, de grands nègres, de grands peintres, et nègres dans le sens de toute cette ouverture, un mot qui n'a pas de couleur, un mot qui veut dire l'homme tout simplement. Et fort de tout ça, justement, on a créé cette revue pour prendre justement le contre-pied des politiciens haïtiens qui n'arrêtaient pas de tendre la main devant la porte des nations pour demander. Ça, c'est vraiment l'Haïti qui donne, l'Haïti riche, l'Haïti poétique qui ouvre ses bras,
qui se met à la hauteur du monde et qui l'accueille, ce monde.
Qui accueille, qui partage et qui collabore avec des artistes, pas n'importe lesquels, les meilleurs d'entre nous. Pour faire une grande chaîne, Intranquillité, justement, c'est un beau réseau d'émotions qui rassemble des centaines d'artistes.
Donc c'est une revue qui n'est pas auto-centrée, même si elle part d'Haïti, son point de départ c'est là-bas. J'ai regardé les contributeurs de votre revue qui en est à son 4e numéro.
Tout à fait.
Ça va, la liste est longue et belle, elle a du panache, ça va d'Ananda Devi à Nancy Houston, en passant par une Christiane Taubira ou un Michel Onfray, donc... C'est pas vraiment le cercle des poètes disparus, votre vue.
Pas du tout. Ouais. Mais en même temps, il y a surtout beaucoup, beaucoup de jeunes.
Le rêve de cette revue, vous le définiriez comment ?
On présente la revue souvent comme un rêve déguisé en revue, mais en même temps, c'est une œuvre de beauté. Et en même temps, on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire, c'est une œuvre.
Vous revendiquez de ne pas avoir d'objectif.
Non, c'est vraiment par le prisme de la beauté qu'on veut voir le monde.
Vous pensez que la poésie est nécessaire à l'homme d'affaires qui ne pense que CAC 40 ou à l'homme politique qui fait bombarder la Syrie pour repousser soi-disant Daesh ?
Ah oui, mais la poésie, que je le dise ou pas, personne n'échappe à la poésie finalement. Et on pourrait juste souhaiter que l'humanité respire davantage en poésie au lieu de se tuer dans l'ennui.
Est-ce qu'il est vrai que la venue d'un André Breton, le bien nommé surréaliste, a fait trembler la terre politiquement lorsqu'il s'est rendu en Haïti en 1946,
oui,
James Noël ?
Oui, après son passage en 1946, André Breton justement, a contaminé des jeunes comme René Depestre, comme Gérald Boncourt et tant d'autres, Jacques-Stéphane Alexis, et pas des moindres. Il a enflammé ses corps déjà enfiévrés, et puis ça a poussé. Ils ont éjecté les jeunes révolutionnaires comme Depestre et Alexis.
À s'opposer
contre l'ESCO. Et c'est ce qu'on appelle, dans l'histoire d'Haïti, les cinq glorieuses. La fleur de Guernica. Tout se met à casser, à se fracasser autour de nous. Un curieux vacarme qui s'étend sur des kilomètres de douleur. Un carnaval têtu de casseroles cabossées. C'est par les colosses de bâtiments qu'arrivent les premiers scandales d'hécatombe. Après, c'est au tour des autres maisons de tirer l'accordéon de la mort en cascade. Les chiens entrent dans un cycle d'aboiements sans queue ni tête. Une vraie Babel de larmes et de désespoir en bloc. Certaines maisons, sous l'effet de la panique ambiante, ont une montée de fièvre subite et prennent feu. Le ciel se met à vaciller et à basculer. Je serre ma mère très fort. C'est un tremblement de terre, définit-elle, sans voix.
Il y a une question presque rituelle dans le quotidien des Haïtiens, James Noël, c'est « Où étiez-vous le 12 janvier 2010 ?»
J'étais dans ma voiture. J'avais une vieille bagnole et je me suis dit, tiens, ça y est, c'était la panne. Sauf que c'était pas la panne, c'était la terre qui était en panne. Et à un moment donné, quand je me suis levé la tête, là j'ai vu des câbles électriques en train de
vaciller
et tout de suite j'ai compris, c'est le ciel qui m'a fait comprendre que c'est un tremblement de terre.
Un séisme d'une telle ampleur, est-ce que ça peut faire retomber en enfance? Parce que c'est un peu la sensation que j'ai eue en lisant votre Fleur de Guernica.
Au fait, j'étais déjà tombé en enfance, 2 mois avant. Je venais tout juste d'être au père, et pour la première fois. Donc ça m'a marqué parce que je suis rentré pour l'accouchement de ma compagne, je vivais ici, en France. Et puis la présence aussi de notre fille, Léna, et bébé, a changé un peu ma vision du tremblement de terre, parce qu'il y a le tremblement de terre, il y a aussi et surtout les répliques. C'est-à-dire que tu viens de connaître ce drame, et puis toutes les nouvelles qui l'accompagnent, les décès de pas mal d'amis. Et en même temps, tu n'as même pas le temps de pleurer, mais que les répliques viennent te rappeler que ben, le danger, on dirait, vient de commencer. Sauf que quand le lit est vacillé, il y a le bébé qui avait juste 2 mois qui se mettait à rire. C'est comme si l'enfant était bercé par une main. Le bébé était bercé par la terre. Et là, justement, ça m'a fait rigoler. Je me dis, cette histoire-là, il faut la raconter différemment. Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai écrit La Fleur de Guernica.
Il y a beaucoup de musique dans votre vie, James Noël. Et d'ailleurs, je sais que les chanteurs aiment bien chanter vos poèmes. Mais là, on va se laisser faire par un certain Bello. C'est un chanteur haïtien que vous aimez bien, je crois.
Oui.
Et qui raconte en musique le drame des migrants dans It's What Wall.
Histoire drôle. En créole, quand on dit drôle, c'est pas drôle de façon humoristique, c'est bizarre, c'est étrange. Ouais.
Histoire 5 jeunes garçons qui prennent la mer, aller chercher qui bora vie fait coin. Dès que ça y est, t'es tambour, kak misère, d'obliger parti quitter famille loin. Yo pas même gagnon destination. Yo sous de l'eau, sous compte vent. Nek sa yo te gen yon sale vision. Quitte Haïti, fait cap yo plein vent pour y aller. Yo finale. Jour a passé, nek yo sous de l'eau. Désespoir t'es envahi, pas gué manger, pas même gué de l'eau. Qu'est-ce que t'es en palé, yo? Que yon guizi passe pour le tatouné. Tapito la gué colbaye de ké. Les jeunes lits en pays, les gué de mer. Chaque jour, soleil a l'élevé, le jeune n'y pas fait rien. Si moun ka bleye, nek sa yo mim jan avek, yo te reme Haïti to pa anpye. Yo te toujou nan la pen, la vi pou nek sa yo pat fasil. Yo te oblije ale, la mize la riche pou se do yale. Peyizan ale, ale, atizan ale, ale, etidyan ale.
Dans le programme en sol majeur de James Noël sur RFI, James Noël, poète haïtien intranquille et locataire d'éternité, comme il dit. Ne soyons pas modestes. Pour l'instant, notre poète est propriétaire d'une belle renommée, adoubé par le trésor national haïtien, Franck Etienne, dès son premier recueil, poème à double tranchant. James Noël vogue de résidence à la Villa Médicis en prix littéraire, avec un gros cartable sous le bras. Des projets, des performances entre Port-au-Prince et Paris, avec toujours un énorme désir de partager la poésie à grande échelle. Entre la revue littéraire Intranquillité qu'il a fondée et l'anthologie de poésie haïtienne qu'il a dirigée, il a un train de vie de poète enragé. Vous ne connaîtrez donc pas le destin des poètes maudits, vous êtes trop connu pour ça. Mais j'ai remarqué qu'on parle souvent de malédiction haïtienne, mais jamais de poète haïtien maudit.
Je ne suis pas un être réalisé, j'essaie de suivre encore, d'être à l'écoute de ce que je fais pour me comprendre. J'écris pour avoir de mes nouvelles.
Et c'est joli ça.
Donc du coup, comme Darwin, je pourrais dire que la terre nous est étroite et on sait qu'on va peut-être partir. Et ne pas voir le pays sous le signe enfin d'un soleil démocratique qui atteint tout le monde, avec de l'électricité peut-être dans les maisons, avec de l'eau courante, et puis surtout l'éducation pour tout le monde. On n'est même pas là. Haïti, c'est un pays de grand goût.
C'est quoi un pays de grand goût ?
C'est le mot créole pour dire la famine. Quand on vient d'Haïti, ben, on est pris en otage par la famine, parce que on devient comme une île entourée justement de gens qui ont faim.
Les poètes, ça boite toujours un petit peu. C'est ce que disait Léo Ferré, que vous aimez bien, je le sais.
Oui.
Est-ce que vous avez remarqué vous-même, chez vous, un certain boitement?
Oui, parfois, oui. Et en même temps, j'aime quand il dit qu'un poète, ça sent des pieds. Entre le boitement et l'odeur des pieds, ben, je pense qu'il doit avoir un certain lien.
Quel lien y a-t-il, autre question sur le lien, entre vous et ce grand Jacques-Stéphane Alexis que vous avez déjà cité dans l'émission? Alexis né en 22 à Gonaïves et qui est mort assassiné en 61 dans le nord d'Haïti.
C'est un porteur de lumière, Alexis, à l'image de Jacques Roumain, et qui dit qu'un être humain doit être un boulanger de la vie. En passant, j'ai créé une boulangerie.
Hein. C'est vrai.
Faute de pouvoir être Jacques Roumain. Mais on parle d'Alexis et j'aime beaucoup Jacques Alexis. C'est le romancier, l'homme qui m'a déniaisé avec son roman L'espace de ciment. Un roman qui se passe dans un bordel, un bijou mal connu.
Il y a un point commun en tout cas entre vous, c'est la paternité. Il a écrit une belle lettre à sa fille Florence qu'il n'a pas revue. Et vous êtes père vous-même, et vous aussi, James Noël, vous avez écrit une lettre à votre petite Léna.
Qui a Aleph, Nir, Bet, Tima, Dalet, Riel, Hey, Mim, Vav, Pien, Réchio, Tet, Ian, Yod,
P comme papa.
Cher Léna, pour t'écrire et te témoigner tout l'amour que je couve pour toi sous ma chemise, j'hésite entre l'italique et les grosses lettres, en ta qualité de fille de caractère. Tu es venue au monde d'un bon pied, contrairement à beaucoup d'entre nous qui débarquent sur un faux pas, pour se ressaisir longtemps après, lors d'une crise d'adolescence, d'un deuil, d'un séisme ou d'une rupture amoureuse. En ce sens, je pense que toi, tu es né le jour même de ta naissance. Moi, j'ai eu une enfance chaleureuse sans mon père. Il n'y a même pas eu son portrait pour nous veiller ou surveiller dans le salon. Grâce à son absence, mon enfance n'a pas connu de censure. La morale de ma propre histoire, vois-tu, me coince dans une ambiguïté farouche quant à une proposition de feuille de route, de ligne à suivre.
Qui était votre père alors, James Noël?
Noël Misraël, un dandy, un militaire.
Absent?
Absent, non. Pas là, oui.
C'est quoi la différence?
La grande différence, c'est que quand tu es absent, tu sais que tu as un père et qu'il n'est pas là.
Et ça n'a pas été une souffrance.
C'est ça que j'entends,
et c'est assez nouveau.
C'est bien ça, oui, oui. Non seulement ça n'a pas été une souffrance, et à un moment donné, on vivait un peu dans la conscience que c'était une chance. Mais ce n'était pas arrivé parce qu'on voulait se consoler. Ma mère y est pour beaucoup, et ma mère nous a beaucoup manipulés. Nous étions une famille protestante, ma mère est très fervente jusqu'à présent, très fervente protestante, et elle comparait mon père avec le diable. Elle disait tout le temps qu'elle était à la fois la mère et le père. Et c'était vrai.
C'était vrai. Est-ce que vous diriez que vous aussi, vous êtes né le jour même de votre naissance?
Non, j'ai mis beaucoup de temps avant de naître.
Vous aussi, vous étiez absent de vous-même?
Oui. Au fait, je me voyais souvent comme... Après avoir lu L'étranger, je m'identifiais pas mal à Meursault. L'étranger.
De Camus.
Mais étranger de moi-même. Comme coupé de moi-même. Ouais. Et je pense que c'est à force de fixer le vertige sur le papier, pour reprendre l'expression de Rimbaud, qu'au fur et à mesure, je commençais à me rassembler.
Vous viviez assez tôt, enfin, dans un monde de mots, peut-être d'ailleurs encouragé par votre mère, qui était institutrice puis directrice d'école à un moment donné. Et je voudrais qu'on s'arrête justement sur un mot qui cogne dans votre tête à ce moment-là, James Noël, c'est le mot déchoucage.
Oui, c'est enlever une racine, enlever une plante de sa souche.
Qu'est-ce qui vous rappelle ce mot ?
Et déchoucage, c'est une révolution. Quand le peuple haïtien a chassé Jean-Claude Duvalier du pouvoir au bout de 29 ans de règne. Donc en 86, départ du dictateur Jean-Claude Duvalier, accueilli par la France de manière hospitalière. Et le peuple, justement, qui a pris sa revanche et en même temps qui attaquait les bourreaux, c'est-à-dire les Tonton Macoute. Et donc ça passait vraiment à des scènes atroces et... J'ai vu passer quelqu'un qui portait sur son dos un réfrigérateur de couleur blanche.
C'est une scène de pillage.
C'est Haïti qui porte encore ce poids sur son dos.
Une scène de pillage.
Oui, c'est un grand pillage, un déchoucage. Et ce réfrigérateur blanc, pour moi, c'est l'histoire qui est enfermée là, qui est congelée. C'est-à-dire, on ne sort pas de cette histoire et puis ça fait 30 ans.
J'ai sous les yeux une photo de vous en noir et blanc et que... Un chapeau de cow-boy et de la fumée qui sort de la bouche. C'est pas exactement l'image que je me fais hein, du pyromane adolescent. Et c'est pourtant comme ça que vous vous présentez. Qu'est-ce que c'est qu'un pyromane adolescent ?
Ben, un pyromane adolescent, c'est le recueil de la joie. Parce que je voulais réconcilier avec le rire. Quand j'écris Le sang visible du vitrier, c'était une période très dure dans ma vie. C'était en 2004. Encore, on parle d'Haïti, c'était... L'année où j'ai perdu, par exemple, un grand ami comme Jacques Roche, le poète kidnappé et atrocement assassiné. Donc j'ai écrit « Le sang visible du vitrier ». Et des années plus tard, le pyromane adolescent, c'est une proposition de chaleur humaine.
Mais c'est une proposition poétique, la pyromanie.
Oui, la pyromanie comme dernière planche de salut de la chaleur humaine.
En même temps, ça brûle tout, la pyromanie.
Ça dépend. Et puis en même temps, il faut que ça brûle. Le feu comme élément, c'est même de la religion aussi, c'est vraiment c'est dans un élan de purification. Mais ce n'est pas un religieux qui parle. La pyromanie, c'est aussi un vice chez moi. Quand j'avais 17 ans, je rêvais de brûler. Quoi.
Est-ce que vous pensez que l'adolescence, c'est un état poétique ?
Et dans Pyromane adolescent, ben, j'ai proposé justement de garder jusqu'à 100 ans cet état. Et souvent, par exemple, les parents font tout pour accompagner les adolescents dans cette période de ce qu'on appelle tristement une crise d'adolescence. Mais je pense que la crise d'adolescence, c'est un état à sauvegarder. Il ne faut surtout pas sortir de cet état. Il faut être dans la vibration en continu.
En tout cas, il y a du fémur dans votre écriture. Ça veut dire que, sans doute, ce désir du mot, ce désir de langage...
Marché. Pardon ?
Oui, rattrapé en tout cas par une réalité haïtienne qui est toujours un peu à fleur de drame. Je pense à un poème que j'aimerais bien que vous nous lisiez, Non-lieu. Dans quel contexte vous l'avez écrit, ce poème ?
Et Non-lieu, je l'ai écrit en 2005. Il y a eu une tempête qui a provoqué un tsunami dans une ville qui est la ville d'ailleurs de l'indépendance, la ville de Gonaïves. Et ça a fait beaucoup de morts. Non-lieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Ne sommes pas de ce pays. Sommes pas de ce village. Pas de cette rue. Nous sommes des morts. Lourds mots valises que préfèrent des voyageurs aux mots de passe. Des mots valises. Sans dimanche, des cravates. Sans trait de famille. Ni trait d'union. Nous venons d'un trou d'air. Le cœur mal loti par le vent, nous nous aimons derrière nos larmes sans faire l'amour, faute d'espace. Ici, la mort est diluvienne. Nous ne sommes pas de cette rue, ne sommes pas de ce village, sommes pas de ce pays, pas de ce monde.
Quand ça ou pense dans l'autre causé.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
James?
Et l'autre langue pour moi serait le français. Mais je remplis plus mes pages en français qu'en créole.
Vous savez pourquoi?
Parce que c'est comme ça, c'est normal. L'éducation en Haïti se faisait en français. Donc du coup, mes premiers mots de poète en herbe étaient en français, naturellement, avec Ronsard, etc., etc. Donc l'autre langue, c'est le français. Et j'ai eu conscience que le métier, justement, entrait en moi à partir du moment où je commençais à écrire dans une langue autre et qui n'était ni le créole, ni le français. C'était ma propre langue.
Et comment vous la définiriez, cette langue?
Eh bien, qui bouscule le champ lexical, qui consistait à désapprendre à moi-même tout ce que j'avais appris. En même temps,
Par exemple, lorsque vous écrivez « Nous ne sommes pas de cette rue » et que vous enlevez le « nous » ensuite dans le vers suivant, « Ne sommes pas de ce village », vous parlez de ce bousculement de l'ordre syntaxique, c'est ça par exemple?
Aussi. Et l'autre langue pour moi, c'est le français. La langue autre, c'est la mienne et c'est pas le créole.
Mais quand vous souhaitez écrire un pamphlet, par exemple, sur le gouvernement Martelly, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, James Noël, vous le faites en quelle langue ?
C'est arrivé en créole. Ce n'est pas une décision. Travailler sur Martelly, c'était en réponse à un propos qu'il a tenu au Champ de Mars. Il invitait le peuple à péter.
Au vrai sens du terme ?
Oh, oui. Non, c'est vraiment très vulgaire, mais en même temps, c'est sans coup de honte, il l'a toujours fait. Donc du coup, j'avais une réaction. Ouais, j'écris un poème.
Épidermique, pour le coup.
Oui. J'écris un poème.
Majigriji ? Comment c'est le titre ?
Majigriji.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est du gribouilli. Des gribouillis. En même temps, j'ai joué sur la décomposition. On parle bien de décomposition du personnage, d'une société. Et en même temps, c'est Majigriji. C'est pour revenir encore à l'essentiel, qui est la poésie. Et c'est plutôt, encore une fois, une proposition de beauté. Parce qu'après Martelly, le lieu sera bon pour la poubelle. Mais c'est ce qui a déclenché ce déchaînement de colère à moi.
Est-ce que vous nous enchanteriez en sol majeur avec un de vos poèmes en créole, un de ceux que vous connaissez par cœur ?
Moins passé plus temps sous ventou, drivaillé dans sang, mettez diffé dans sang nous. Souvent tout, moins passé plus temps que moins vive. La rivière descend pour te aller dernier rêve l'homme. Ou même avem rete ten face, bab pou bab, rien pour rien. Avec ou, moins vive plus sous cabane que sous la terre.
Bon, je suis amoureuse de l'haïtien. D'ailleurs, je remarque que vous dites créole, hein, vous ne dites pas l'haïtien.
Non, c'est créole.
Vous préférez dire créole ?
Oui, c'est un parti pris.
Comme le français parle le français.
Oui, mais en même temps, même au niveau de l'orthographe, avec un K.
D'accord. Qu'est-ce que vous racontiez dans ce poème? Quelle est l'idée, l'esprit de ce poème?
Oui, c'est un poème d'amour, très charnel. Je passe plus de temps sur ton ventre que sur terre.
Quelle belle image. Oscillante langueur sanguine délicatesse, quand je jouais aux billes avec le temps, je gagnais à tout coup. Aujourd'hui, jardinier du vent, je me déplace en crabe et marche à pas compter sur mes souvenirs. Vous êtes pensif, James Noël. En fait, c'est un petit bout de Ballade de la trompette lumineuse d'Anthony Phelps, qui fait partie de l'anthologie de poésie haïtienne contemporaine que vous avez dirigée et qui est en train de sortir. Donc 73 auteurs, immatriculés poètes, comme vous dites. Quel but, cette anthologie?
Là, peut-être qu'il y a un but. De gagner, de marquer un coup. Au départ, c'était pour travailler sur la réunification des deux recueils, Pile et Face, Le sang visible du vitrier et Le pyromane adolescent. Et après, ils m'ont demandé, est-ce que tu ne considères pas que ce soit un scandale, le fait qu'il n'existe pas d'anthologie de poésie haïtienne en poche? Ils disent, c'est un scandale.
Une sacrée autorité intellectuelle hein, dans le milieu, James Noël, à 38 ans.
Autorité, mais plutôt de la souplesse d'une bonne nouvelle, comme la fin de la Mégasodémure. Comment j'ai procédé? J'ai demandé aux poètes de choisir eux-mêmes leur simple beau poème. Parce que justement, c'est Paul Éluard qui dit qu'une anthologie est une œuvre que l'on fait pour soi. Du coup, ça, c'est pas une anthologie que je vais faire pour moi-même, mais surtout une anthologie pour nous, un choix pour nous, enfin, surtout des poètes vivants. Et je voulais dérouler un tapis d'écume rouge à la nouvelle vague. C'est-à-dire vraiment beaucoup de poètes, de jeunes poètes, des voix qui ne sont pas connues, mais qui ont publié dans des revues, et qui ont un recueil de poèmes.
Donc la poésie a été, elle est et elle sera. C'est peut-être le message de cette anthologie. Vous n'avez pas eu de père, James Noël, mais vous avez eu des pères littéraires puissants en Haïti, toujours vivants et qui passent volontiers le flambeau de génération en génération. Et voilà ce que ça peut donner en sol majeur. Ça se passe entre le Cantique des Cantiques et Franck Etienne.
Tout autour de ma bouche enflammée de voyance vibraient des signes entrecroisés.
Des baisers, oh, des baisers de sa bouche.
Le s'entrecroisement tragique de la vie et de la mort.
Comme odeur, tes parfums sont si bons.
La malédiction du plus.
C'est ton nom.
Et du moins. L'intersection magnétique de la croix.
Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment.
La croix, comme le symbole obsessif des apparences androgynes, où la douleur et la joie se rejoignent en une onde éphraïque de gammes fugitives.
Joie par toi.
Des frayelles, mâles et femelles.
En mémoire, tes amours mieux que le vin.
Une étrange vigne, or varinée de vinaigre solaire et de douceur lunaire.
Comme les temps de
un défi perpétuel. Alors, comment saisir les nœuds de l'aube à travers la fulgurance du maïlor hybride, fiel et
miel. Les fils de ma mère en colère contre moi, ils m'ont faite gardienne de vigne.
On a un condensé de paternité littéraire pour vous, James Noël. C'est un peu Dieu le Père, avec deux visages. Celui du Cantique des Cantiques, revisité par Bachung et sa compagne. On entendait la voix de sa compagne. Et puis la voix de l'éternel Franck Etienne. On peut parler de paternité littéraire avec juste ces deux références?
Oui, bien sûr. Et Franck Etienne, c'est un ami, c'est un repère, c'est un père spirituel. Il a de très grands livres comme Ultra Vocal, Rap Jazz.
Il travaille beaucoup sur les néologismes.
Franck Etienne, justement, c'est l'auteur pour qui le dictionnaire ne suffit pas. Tous les trois mots, il y a un néologisme. Et en même temps, qui jaillit comme une évidence. Et en même temps, aussi, il en abuse trop. Parce que c'est impossible pour le traducteur. Franck Etienne, j'espère que tu nous écoutes.
Ah, c'est le disciple qui tacle le maître. Vous travaillez avec des dictionnaires vous-même?
Ouais, j'aurais dû, mais c'est pas le cas. Et je me sens très pauvre Ouais, matière de vocabulaire, parce que j'ai pas pris un dictionnaire. J'ai même honte de le dire, ça fait au moins 10 ans.
Vous ne cherchez pas la pierre précieuse dans
non,
le langage?
Non, non. Oui, oui, mais intérieurement, j'utilise encore mes gammes intérieures, parce que quand j'étais adolescent, et je...
Attention, hein?
J'apprenais...
Vous avez signé pour l'adolescence éternelle.
Oui, j'apprenais le dictionnaire par cœur. Et ce n'était pas un effort ou un travail de garçon exigeant à l'époque. C'est qu'à la maison, il n'y avait que des dictionnaires et des bibles. Bon, au lieu de prendre tout le temps la Bible, et ma mère qui m'aimait bien nous voir avec un livre entre les mains, eh bien, je prenais tout le temps le dictionnaire. Et à un moment donné, je voyais que je connaissais plus ou moins tout par cœur.
Vous évoquez volontiers le Cantique des Cantiques ou le Psaume de David. Vous lisez, vous avez lu en tout cas la Bible énormément. Vous êtes quel genre de lecteur de la Bible?
Un lecteur passif.
C'est quoi un lecteur passif de la Bible?
Moi, je connais par exemple les chants d'espérance par cœur, mais je n'ai jamais appris les chants d'espérance. Et pour la Bible, c'est pareil. Je vois ce livre et c'était à l'église. J'étais fasciné. Je peux dire que le premier choc poétique s'est passé dans ce lieu.
Alors, à la question, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans la marmite d'un imaginaire signé James Noël? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais il y a sans doute aussi des images, peut-être de la peinture. Il y a peut-être des films, et je pense à un film qui scandalise encore aujourd'hui, un film sans doute irréalisable aujourd'hui, signé Pasolini, Salo, ou Les 120 journées de Sodome. Et comme vous le savez, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est une libre adaptation de l'œuvre du Marquis de Sade.
Un jour, ma sœur aînée me dit, connais-tu le professeur Gentil? Je dis que non. Eh bien, regarde donc dehors, il te cherche. Sans la moindre hésitation, je courus vers ce professeur Gentil. J'avais du mal à y croire. Il m'arrêta en disant, mais où vas-tu? Arranger les chaises, professeur. Ah, mais laisse ta sœur faire ça, viens plutôt voir. J'ai quelque chose à te montrer que tu n'as jamais vu. Je le suivis, nous entrâmes, il referma la porte. Regarde, mignonne. Et il sortit de son pantalon un pénis monstrueux. Dis-moi, continua-t-il en se masturbant, as-tu jamais vu quelque chose de pareil? Je l'ai montré à ta sœur, je l'ai montré à toutes les fillettes de ton âge. Aide-moi de ta main.
Un instant, Madame Vaccari. Il convient que vous ne négligiez absolument aucun détail. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons tirer de vos histoires les indispensables éléments d'excitation que nous attendons de vous.
Je ne crois pas n'avoir rien négligé qui...
Pourtant, je vais vous donner un exemple.
Comme.
J'ignore totalement quelle était la dimension du pénis de ce professeur.
Totem.
J'ignore totalement quel était son type d'éjaculation. Et je ne sais pas non plus si vous avez touché ses organes génitaux ou s'il vous a forcé à les prendre dans votre main.
Et tabou.
Voilà, à la fois un totem pour certains cinéphiles et puis un film tabou, ce Salo de Pasolini. Alors, certains détracteurs disent que ce film est carrément un encouragement à la phallocratie et au rapport de force dominant-dominé qu'il est censé dénoncer dans le film. Bon, ça, je vous laisse juger. Mais cette scène qu'on vient d'entendre, qui est l'une des plus soft du film, elle est intéressante pour le décalage, je trouve, qu'il y a entre le langage et le récit. Le récit est transgressif, évidemment. Mais il se fait ce récit dans une langue académique, et tout ça sur des grands parquets bourgeois. Est-ce que ce décalage, vous y êtes sensible? Est-ce que ce décalage, c'est quelque chose que vous cultivez vous-même dans votre travail, James Noël?
Ben, comme je suis toujours en plein décalage horaire, donc c'est même pas la peine
de... Un peu facile,
de...
ça, quand même. Hein.
Mais il faut être décalé. Les mots ont assez de charge, de choses à inoculer en nous, comme petit secrétaire de l'imaginaire... du monde des mots, pour prendre la voix tout seul, sans rétroviseur. Donc en ce sens, il faut rester au plus près de l'imaginaire, d'où l'importance du décalage.
Je ne sais pas si vous avez pour ambition d'être un poète subversif qui voudrait bousculer la doxa et l'ordre moral, hein, parce que c'est ça le but du jeu finalement, mais on pourrait se quitter sur un de vos gribouillis, James Noël.
Mais fusible. Pour parler de gribouillis. Mes fusibles. Avaleur d'éclats de vitre, je brûle tous mes fusibles. Me gave de transparence, d'opacités irréparables. Je suis peut-être un vitrier pyromane, corps lisibles à plus de 27 000 km de distance. Mes îles érogènes n'ont point de porte ni fenêtre de secours. Elles grisent, tremblantes, dans leur château de verre. Mon histoire est désormais tranchée. Je suis un détenu de la parenthèse. Le sang m'emprisonne sans faire de phrase. Je vis dans la déréalité criante de la vitre cassée entre mes doigts. La lame qui me traverse m'a ouvert un tapis rouge en abondance, à force de douleur, me parcourant à vive allure. Il ne me reste qu'à prendre l'arc-en-ciel comme une écharpe, afin de liquider le feu de mes boyaux.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à James Noël, une bibliothèque entière n'y suffirait pas, mais je signale donc La migration des murs aux éditions Galade, et puis votre anthologie de poésie haïtienne contemporaine parue aux éditions Point, sans oublier votre revue littéraire Intranquillité hébergée sur le site des éditions Zulma. On va refermer cet En sol majeur avec le charme haïtien de Gazman Couleur.
Sa moun fè yon kwa Ti amou M'aksepte tout kondisyon Sa mounè mwen akon Fè mwen gras Ou te ti mpon ti pasyans Ou l'an fin kominye Wetan, wetan Jus l'an fin konfime Ou mandan pou sa mante Si reyalman dena ou An verite Je compte te voir
avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Cédric Ido. À la semaine prochaine.